BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
On parle beaucoup de l'intelligence artificielle en ce moment, on n'en parle que de ça même. Est-ce qu'il existe d'autres façons d'en profiter dans vos portefeuilles? Elodie Rouault nous rejoint, Elodie Rouault qui est associée chez Altos. Bonjour Elodie, bienvenue.
Bonjour Guillaume.
Investir dans la tech, ouais, mais autrement, c'est cette idée, cet objectif que vous venez présenter à nos auditeurs investisseurs aujourd'hui.
Exactement, on a tous envie de participer à cette révolution de l'intelligence artificielle, on a tous envie d'investir dessus, mais on se demande un peu comment le faire. Est-ce qu'on investit en direct sur justement Nvidia dont vous venez de parler ou les sociétés relatives à l'intelligence artificielle? Mais on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on participe à l'introduction en bourse d'Anthropic, d'OpenAI plus tard? Et on a des questions qui sont légitimes. Est-ce que c'est déjà un peu trop tard? Est-ce que c'est déjà un peu trop cher? Comment je me situe par rapport à ça pour ne pas avoir trop de volatilité dans mon portefeuille? Et donc l'idée, c'est de se dire que on ne sait pas du tout qui sera le grand gagnant de l'intelligence artificielle demain ou qui sera le grand gagnant. Mais ce qu'on sait, c'est que tous ces acteurs de l'intelligence artificielle ont besoin d'énormément d'infrastructures. Donc, on peut se dire qu'on va jouer cette thématique de l'infrastructure pour participer à cette révolution qu'est l'intelligence artificielle.
Quelles sont les infrastructures dont vous parlez et sur lesquelles vous misez particulièrement là?
Alors, pour vous donner un exemple concret, si vous posez aujourd'hui sur votre téléphone une question à ChatGPT, vous allez avoir la réponse dans quelques secondes. Mais entre-temps, votre question aura parcouru des milliers de kilomètres de fibre optique pour arriver dans un data center dans lequel des milliers de serveurs et de processeurs travaillent. Pour cela, il y a besoin d'énormément d'électricité. Cette électricité doit être produite, doit être stockée, doit être acheminée. Pareil, on a besoin d'eau pour refroidir tous ces services-là. Donc, on a besoin de la faire circuler.
Circuler, les réseaux d'eau.
Exactement. Et donc, du coup, face à une toute petite demande qu'on pose sur une intelligence artificielle, il y a énormément de besoins d'infrastructures derrière. Et donc, les besoins sont très importants.
L'agence internationale de l'énergie, l'AIE, s'est prononcée justement sur la consommation électrique que nécessitera l'intelligence artificielle.
Et elle devrait doubler d'ici 2030, que pour l'intelligence artificielle.
D'accord.
Il y a même une étude de McKinsey qui dit que les dépenses en termes de data center devraient être de l'ordre de 6 700 milliards de dollars d'ici 2030. Donc les besoins sont colossaux pour participer à cette révolution. Et donc il y a quand même quelque chose à aller chercher justement pour participer à cette...
Antoine.
Alors, est-ce que c'est une classe d'actifs nécessairement intéressante pour l'investisseur?
Oui, c'est intéressant parce que ça n'existe pas juste parce qu'il y a l'intelligence artificielle, c'est une classe d'actifs qui existe depuis toujours. En fait, si on parle des infrastructures, en réalité, on parle d'actifs qui sont essentiels au bon fonctionnement de la société et de l'économie. Donc là, on parle de l'intelligence artificielle, on parle des infrastructures digitales, mais on parle aussi d'autres infrastructures telles que les transports, donc les routes, les autoroutes, les ports, le rail. On parle d'énergie renouvelable, on parle de plein de choses. Et ce sont des éléments qui existaient déjà avant la révolution de l'intelligence artificielle, qui sont juste amplifiés, augmentés, et donc les besoins augmentent. Donc c'est intéressant pour un investisseur, parce que ça répond à des besoins essentiels. Donc, il y a plein d'avantages, plein de caractéristiques qui sont intéressantes dans un portefeuille de long terme.
On a besoin de construire des pipelines en quelque sorte, des pipelines de transmission d'intelligence.
C'est ça, exactement.
Ouais, ouais.
Et donc, il y a énormément de besoins. Alors, là,
et c'est le retour au physique à travers l'intelligence artificielle, parce qu'avec Internet, c'était l'économie matérielle. Là, ça redevient très, très matériel. Et c'est ce que vous êtes en train d'illustrer. Et on le fera dans des produits, des idées de support d'investissement dans un instant. Mais on revient à la matière.
On revient à la matière. Sur quelque chose qui, pour le coup, paraît pour le coup complètement immatériel, on a des infrastructures qui sont bien physiques derrière, qui nécessitent des investissements qui sont colossaux, que seuls les États ne peuvent pas porter de toute façon. Donc justement, l'idée, c'est de les financer pour profiter de ça. Ce qui est intéressant, c'est que comme ce sont des services qui sont essentiels à l'économie, à la société, peu importe le cycle de marché, finalement, on peut se dire demain, je ne vais pas acheter une nouvelle voiture ou je ne vais pas acheter un nouveau téléphone parce que le cycle ne me le permet pas. En revanche, je vais continuer d'utiliser l'Internet, je vais continuer d'utiliser de l'électricité, de l'eau. Et donc, du coup, ce sont des secteurs qui sont assez défensifs quand tout va mal, mais qui sont très porteurs quand on a une révolution comme celle qu'on vit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle.
Et en fait, avec des barrières à l'entrée hyper élevées.
Exactement. On ne va pas avoir un acteur demain qui dit j'ai construit 10 data centers parce que les besoins de financement sont énormes. Le temps de mise en œuvre est très important également. Et donc, il y a des barrières à l'entrée qui fait que ce marché ne peut pas être disrupté de manière assez facile. De plus, quand on investit sur ce type d'actifs, les contrats qui sont signés sont des contrats à long terme, donc on a une visibilité qui est assez intéressante sur les revenus pour avoir des perspectives de rendement, donc, et qui en plus généralement sont indexés sur l'inflation. Donc ça coche un peu toutes les cases d'une partie défensive dans un portefeuille pour aller jouer cette intelligence artificielle.
C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'en fait, pour des groupes déjà existants, des groupes d'infrastructures qui ont en charge donc justement l'alimentation de ce boom de l'intelligence artificielle et des data centers, il y a d'autres chantiers. C'est un petit peu un biais comportemental qui nous cache, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que derrière, il y a toute l'électrification de l'industrie.
Exactement.
Alors là, qui reste vraiment une dynamique de développement, alors peut-être un peu plus long terme, peut-être un peu moins buzz, mais alors qui est là, qui est là pour des décennies.
Exactement, et puis qui était déjà là, qui est là et qui sera là demain. Donc il y a vraiment des besoins énormes sur cette partie-là.
C'est autant de supports d'investissement aussi qui s'offrent à l'investisseur, parce que là, effectivement, on est en train de parler que de nouveaux marchés, en tout cas de marchés amenés à s'accroître, à s'étendre, à s'élargir, s'approfondir, des barrières à l'entrée aussi, vous nous l'avez dit, donc il y a de la valeur dans tout ça. Concrètement, comment on fait en tant qu'investisseur pour capter le potentiel? Quels sont les supports que vous, à vos clients, vous proposez, vous préconisez?
Alors, nous, ce qu'on préconise à nos clients, avant c'était inaccessible, pour le coup, il y a 3 ans, cette classe d'actifs, on n'y avait pas forcément accès.
Oui.
Depuis quelques temps, on a des fonds, souvent des fonds evergreen, semi-liquides, qui sont disponibles pour les investisseurs privés. Il y en a un certain nombre dans les contrats d'assurance vie qui sont accessibles à quelques milliers d'euros, pour le coup, sur lesquels on peut aller chercher des rendements de l'ordre de 5%. Et il y a des véhicules un peu plus sophistiqués, accessibles à partir de 100 000 euros, sur lesquels on cherche des rendements supérieurs à 8% par an, et avec une progression sur lesquelles on n'espère pas des effets waouh comme on peut attendre sur la bourse, notamment quand on investit sur l'intelligence artificielle, mais pour lesquelles on cherche une performance qui est assez robuste et assez linéaire.
Donc c'est plutôt à travers du private equity, c'est ça, des fonds evergreen, mais offrant des fenêtres de sortie régulières.
Exactement. Mais ça peut être en private equity infrastructure et aussi en dette privée d'infrastructure, ce qui est intéressant aussi. Ça fait tous les segments du non-coté.
Oui, alors Evergreen, ça peut rappeler les souvenirs, vous savez, le marché du crédit privé il y a quelques mois, etc.
Oui.
C'est, là-dessus, on n'a plus d'inquiétude à avoir spécifiquement ciblé sur l'Evergreen?
Si, on peut en avoir, comme toujours, l'Evergreen, les fenêtres de liquidité qu'on a et les blocages qu'il y a sur certains fonds Evergreen sont faits pour protéger les investisseurs. Parce que quand on investit en infrastructure, les institutionnels qui investissaient dessus initialement investissaient pour 20 à 30 ans. C'est quand même des actifs sur lesquels on ne va pas créer un data center aujourd'hui, le vendre demain, donc il y a une certaine illiquidité. Donc il faut quand même avoir un horizon d'investissement assez long pour investir sur ce type d'actifs, mais les recherches de rendement sont intéressantes.
Et c'est alternatif à la bourse en l'occurrence. Merci beaucoup Élodie Roux, elle est associée chez Altos. Merci d'être passée nous voir sur BFM Business.